Isabelle de Kervillers, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes rapporteur de l'avis du Conseil économique, social et environnemental concernant la compétitivité en France. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup, peut-être encore plus en cette période de crise où on cherche à savoir comment la France peut sortir de cette crise. Est-ce que c'est du côté de la compétitivité qu'il faut regarder? Qu'est-ce que vous avez réuni en quelque sorte avec cette question de compétitivité? Qu'est-ce qui manquait à la France? Est-ce que la France a perdu sa compétitivité en quelques années?
Tout à fait. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est le constat de la perte de compétitivité de la France, il faut d'abord se mettre d'accord sur la définition de la compétitivité. En fait, la compétitivité n'est pas une fin, mais un moyen. Et l'Union européenne dit fort justement que la compétitivité est la capacité d'un pays à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants dans un environnement de qualité. Donc on voit bien que la compétitivité n'est pas une fin en soi. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur la définition de la compétitivité, on passe également au facteur déterminant de la compétitivité en se disant qu'il n'y a pas que le facteur coût, par exemple, mais vous avez des facteurs coût et des facteurs hors coût. Les facteurs clous, classiquement, sont les consommations intermédiaires, le coût du travail, le coût du capital et des autres ressources externes. Et les facteurs hors coût qui sont tout aussi importants et beaucoup plus nombreux, c'est essentiellement la qualité et les savoir-faire professionnels, le service après-vente, la recherche et l'innovation, la formation continue, des financements bancaires à des taux acceptables et enfin des politiques publiques qui permettent d'avoir un cadre convenable pour les acteurs économiques. Quand on dit un cadre convenable, ce sont les infrastructures et les services publics.
Le décrochage qu'on a eu, il est par rapport à l'Allemagne, dont tous les jours on dit il faut qu'on fasse aussi bien que l'Allemagne. C'est l'Allemagne, on a décroché par rapport à l'Allemagne.
Alors voilà, donc je ne sais pas s'il faut faire aussi bien que l'Allemagne, mais ce qui est sûr, c'est que le point de comparaison avec l'Allemagne s'impose, puisque l'Allemagne est notre premier client et notre premier fournisseur. Nous sommes malheureusement le troisième fournisseur de l'Allemagne et le premier client. Et si on regarde les parts de marché, alors prenons la zone euro parce qu'on gomme le problème du taux de change. Donc dans la zone euro, en 10 ans, nous avons perdu plus de 4 points de part de marché, alors que l'Allemagne en a gagné presque 3. Et à l'arrivée, nous sommes dans un rapport de 1 à 2,4 avec l'Allemagne. Donc incontestablement, on perd des parts de marché qui ne sont pas liées au taux de change trop fort, puisque l'Allemagne elle-même, mais on constate qu'on perd réellement de la compétitivité face à l'Allemagne.
Quels sont les éléments qui sortent justement et qui nous ont fait perdre cet avantage, ou en tout cas ce niveau qu'on avait avec l'Allemagne?
Oui, il y a 3 ou 4 éléments à mentionner. Le premier, c'est le poids de l'industrie. On a incontestablement perdu une partie de notre industrie. Si on prend le poids de l'industrie dans la valeur ajoutée. En France, nous sommes autour de 14%, en Allemagne, autour de 26%. Première explication. Deuxième explication, c'est tout ce qui est recherche et innovation. Il y a 10 ans, nous étions un petit peu au-dessus en pourcentage de PIB au niveau de la recherche de l'Allemagne, et maintenant, nous sommes en dessous. Et nous avons 0,5 point d'écart de différence de PIB. Et surtout, la répartition de la recherche entre le public et le privé n'est pas du tout la même. En France, nous avons 50% public, 50% privé. En Allemagne, un tiers public, 2 tiers privé. Or, il faut savoir que nous sommes des pays avec une main-d'œuvre relativement chère. Donc, la seule façon de pouvoir avoir des parts de marché, c'est de faire du qualitatif. Donc, le qualitatif veut dire de l'innovation incluse dans les produits.
Du côté justement des manières d'améliorer les choses, est-ce qu'il y a effectivement vous avez signalé un certain nombre de choses qui pourraient être faites rapidement pour améliorer cette compétitivité perdue, entre guillemets? Qu'est-ce qui peut être fait en priorité? Qu'est-ce qui doit être fait en priorité?
Alors la première chose, puisqu'on parlait de la recherche et l'innovation, c'est en France d'accroître l'interface entre la recherche publique et la recherche privée. On voit d'ailleurs que depuis 10 ans, il n'y a plus du tout cette espèce de barrière systématique entre les chercheurs publics et les chercheurs privés. Mais si on compare avec l'Allemagne, ça fait 100 ans que le public et le privé travaillent ensemble. En France, c'est beaucoup moins vrai. Et il y a un succès qu'il faut quand même souligner, c'est Areva. Areva qui vient du CEA et qui est une réussite industrielle formidable. Donc avec tous nos grands laboratoires de recherche qui ont une renommée internationale, il faut de plus en plus favoriser leur ouverture vis-à-vis des entreprises et leur orientation vers de la recherche appliquée. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points.
Est-ce qu'il y a des secteurs, justement, sur lesquels aussi il faudrait mettre cette priorité? On voit beaucoup d'évolutions sur le numérique, mais il n'y a pas que le numérique.
Non.
Est-ce qu'il y a des
secteurs qui sont concernés? Voilà, nous avons beaucoup insisté sur une réindustrialisation dans des secteurs d'avenir. On a déjà commencé depuis 3 ou 4 ans, d'ailleurs. Le grand emprunt est très orienté vers les secteurs d'avenir. Donc, dans les secteurs d'avenir, vous citez le numérique, qui est un secteur très important. Vous avez également tout ce qui est filière verte. Vous avez également tout ce qui est adaptation des biens et services au vieillissement. Donc, il y a quand même un certain nombre de secteurs dans lesquels il faut absolument rentrer. sans négliger tout de même nos atouts classiques. Et je veux parler de l'agroalimentaire, qui est quand même un point où nous sommes très forts et il faut continuer. Et il y a un point qu'on ne développe pas du tout en termes d'activité, qui pourtant mériterait de l'aide, ce sont des activités maritimes. On a, après les États-Unis, la plus grande zone économique exclusive du monde. Or, on est un pays pas du tout tourné vers les activités maritimes. Donc, je pense que là, il y a un potentiel de développement qu'il faudrait utiliser.
On parle aussi, bien sûr, beaucoup de fiscalité en comparant les pays dans la zone euro. En termes de fiscalité, alors la période n'est peut-être pas propice de ce côté-là, mais comment on peut aider les entreprises dans cette partie-là ?
Alors, on a proposé deux choses. La première, c'est une modulation du taux de l'impôt sur les sociétés. On constate qu'en France, le taux d'autofinancement des entreprises est parmi les plus bas d'Europe. Je crois que c'est 13% d'excédent d'exploitation. Et l'une des façons d'augmenter l'autofinancement serait de moduler le taux de l'IS, donc de l'alléger pour les bénéfices mis en réserve. Alors, il faudrait peut-être cerner la mesure sur certains types d'entreprises, etc. Mais enfin, c'est vraiment une mesure extrêmement importante puisque l'autofinancement, ça coûte a priori zéro comme taux d'intérêt. La deuxième idée, alors là, il y a eu un constat partagé par tout le monde. Je rappelle que l'avis a été voté en section à l'unanimité. Toutes les organisations patronales et syndicales l'ont voté, donc de la CGT au MEDEF, ce qui est tout de même très important. Un point acquis par tout le monde, c'est qu'on ne peut plus continuer à faire peser les charges sociales uniquement sur les salaires. On a notamment ceux qui financent la famille et la santé, ce sont des prestations universelles. On ne peut pas continuer à les faire peser uniquement sur les salaires. Donc l'idée de dire qu'il faut trouver une autre assiette de financement des prestations sociales. Alors, on a évoqué les trois pistes classiques qui sont la CSG, la TVA sociale et la contribution sur la valeur ajoutée. On a ajouté une quatrième, puisqu'on est conseil environnemental, qui serait une taxation sur les consommations de ressources naturelles et la pollution et sur les échanges financiers. Donc tout le monde est d'accord pour que de façon urgente, on trouve une autre assiette de financement pour les charges sociales pesant sur les employeurs.
Si on reste sur cette comparaison France-Allemagne, qui est, on va dire, dans l'esprit du moment, on parle aussi beaucoup en Allemagne de PME qui deviennent internationales et on met souvent le comparatif avec la France où ces ETI, entreprises de taille intermédiaire, n'y arrivent pas à un moment donné à franchir ce cap.
Voilà. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Il faut savoir qu'en France, nous avons deux fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'en Allemagne. Les entreprises intermédiaires, qu'on appelle les ETI, ça va de 250 à 5000 salariés. Donc c'est quand même déjà également de grosses entreprises. Et ces ETI sont les plus novatrices, celles qui font le plus d'innovation et le plus d'exportation. Donc il est certain que si ce maillon-là est faible dans le tissu productif français, on est forcément moins bon à l'exportation. Et si on regarde maintenant le nombre d'entreprises exportatrices entre la France et l'Allemagne, le rapport est de 1 à 4. On a 92 000 entreprises exportatrices et l'Allemagne en a 364 000. Donc il y a un gros effort à faire. Donc c'est aussi un petit peu un problème culturel parce que les politiques en France ont toujours été des politiques en faveur des leaders mondiaux. On a des champions dont on est très fiers. On a beaucoup de mesures pour les petites entreprises, mais entre les deux, on n'a pas grand-chose. Or, ce qui est important en Allemagne, c'est de comprendre que les grandes, les moyennes et les petites entreprises travaillent ensemble. En France, ce n'est pas tellement le cas. Et donc, on a souhaité, au niveau du CESE, favoriser ce qu'on appelle la cotraitance et non plus la sous-traitance. La cotraitance, ce serait de partager les tâches, les responsabilités et les résultats entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4, 5. Et je rappelais ce que nous a dit un orateur, une personne auditionnée qui était un Allemand. Il me disait, en Allemagne, quand vous avez un gros marché avec un donneur d'ordre, les donneurs d'ordre et sous-traitants se mettent autour de la table avant le démarrage de l'opération, définissent ces tâches, se les répartissent entre eux et se répartissent les résultats. Il faudrait vraiment qu'en France, on arrive à ce genre de pratique.
Alors, en conclusion, peut-être, on sent bien que la compétitivité, c'est important, c'est un débat important, qu'il y a des mesures sans doute à prendre dans les prochains mois, voire peut-être même plus rapidement, si l'on veut avancer. Qu'est-ce que vous en attendez de ce rapport qui a abordé beaucoup de sujets, qui donne des pistes? Qu'est-ce que vous en attendez comme...
D'abord, je dis que c'est le début d'une démarche. Et une chose très importante, j'aurais voulu mettre dans le rapport, mais je n'ai pas pu le mettre, qu'il faudrait lancer un Grenelle de la compétitivité. Parce que je pense que on arrivera à gagner la bataille de la compétitivité que si ça devient la bataille de tous les Français. Il faut qu'il y ait un large débat public sur la compétitivité, qui est tout de même la condition du maintien de notre modèle social, parce qu'il faut bien le financer. Donc il faudrait que chacun comprenne l'enjeu de la compétitivité, et qu'il comprenne aussi qu'il est un des éléments de la compétitivité. En Allemagne, la compétitivité va de soi. Tout le monde est conscient du fait que ce pays, l'Allemagne, doit être compétitif vis-à-vis des autres. En France, je ne suis pas sûre du tout qu'on ait compris l'ampleur de l'enjeu. et de la bataille à venir.
Eh bien, on suivra ça, voir si effectivement on organisera un jour ce Grenelle de la compétitivité. Merci Isabelle de Carvière.
Je vous en prie, et j'espère dans quelques années pour faire le constat que la France a largement réussi à gagner la bataille de la compétitivité.
Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.